France Culture. Bonjour Olympe Versigny.
Bonjour Caroline.
On vous retrouve pour le deuxième épisode. On va s'intéresser à l'aventure de votre premier restaurant. Il n'y en a pas eu qu'un. Rue du Montparnasse à Paris dans le 14e arrondissement. Mais on est un peu surpris parce que à la fin du premier épisode, vous nous disiez que la cuisine, ça n'avait pas du tout traversé votre esprit. C'est-à-dire que vous n'envisagiez pas du tout, vous n'avez jamais envisagé de faire de la cuisine votre métier. Et vous voilà à la tête d'un restaurant. Alors, comment les choses se sont-elles produites? C'est le résultat d'un concours de circonstances, en fait?
Exactement, on peut appeler ça comme ça, du hasard. C'est-à-dire qu'en fait, comme je vous l'ai dit au début, ce que j'aimais, c'était la mode et le cinéma. Donc, à un moment, quand il a fallu, parce que Albert étant en sociologie en 68, mon mari, nous avons été mariés, le père de mes enfants, 68, sociaux, Nanterre, il n'y avait pas de débouché à l'époque. En sociologie, sociologue, il en faisait quoi? Il n'en faisait pas grand-chose.
De la recherche, il aurait pu faire.
Il aurait pu faire de la recherche, c'était pas le cas. C'était pas le cas à l'époque. Moi, je travaillotais le matin pour avoir un peu de sous chez ma sœur aînée qui était avocate. Nous habitions rue de Lambre, elle habitait rue Vavin, donc c'était tout près. Je partais avec le panier.
Tout ça, c'est le 14e arrondissement, toujours.
La rue Vavin, c'est le 6e.
Oui, entre les deux.
Et moi, c'est le 14e, de l'autre côté, voilà. Et je partais avec le panier dans lequel j'avais Abel.
Le petit bébé.
Le petit bébé qui venait de naître. Et j'allais faire un peu de secrétariat chez ma sœur Myriam. Je faisais ça le matin. Puis c'était quand même, on n'avait pas d'argent, c'était difficile. Et puis, un jour, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Oh, je vais ouvrir une boutique, je vais faire des vêtements. Sur ce, ma maman étant à Paris, on se promène rue du Montparnasse. C'est une rue où je n'allais jamais, alors que c'était tout près de chez moi. Et en se promenant, qu'est-ce qu'on voit? Un vieux coiffeur à vendre.
Un salon de coiffure.
Un salon de coiffure, oui, un salon de coiffure. Alors, à ce moment-là, on rentre. Et ma maman demande le prix, combien, c'était rien du tout, c'était un fonds de commerce, c'était pas les murs. Et ce monsieur était extrêmement gentil, c'était un Alsacien qui prenait sa retraite. Et ma mère m'a dit, je vais mettre un peu d'argent, vous allez trouver le reste de la somme avec Albert et moi, comme ça tu pourras faire une boutique de vêtements.
Ton rêve.
Mon rêve, exactement. Ok. Ça se fait très bien, on n'a pas complètement l'argent, mais ce monsieur est d'une gentillesse, il voulait rentrer en Alsace, il a dit quand vous aurez la suite de l'argent, vous me l'enverrez. Incroyable, ni papier signé, ni rien. Et on prend donc possession de cette boutique. La première pièce était salon de coiffure, avec les vieux fauteuils de l'époque. La deuxième pièce était salle à manger. La troisième petite pièce était chambre à coucher. Et le fond, c'était cabinet de toilette. Parce qu'à l'époque, les gens vivaient comme ça. Il y a beaucoup de boutiques où les gens vivaient dans leur boutique. Et donc, il fallait faire notre boutique. Et puis, il y a beaucoup de discussions. Qu'est-ce qu'on va faire? Et un soir, on a des amis à la maison. Parce que je recevais beaucoup de copains. Parce qu'ils aimaient bien la cuisine que je faisais.
Parce que vous comme cuisiniez à la maison, quand même.
Voilà. Et comme ils étaient tous étudiants, qu'ils y mangeaient très mal et tout, ils étaient très contents de venir.
On va y venir, bien sûr. Mais vous faisiez pas seulement à manger. Vous cuisiniez à ce moment-là pour les amis. Et donc, c'était très bon.
Et donc, en discussion, je dis, mais pourquoi, au lieu de faire un truc de vêtements, faire un restaurant et tout ça? Et moi, je me dis, non, j'ai aucune envie. Et puis, je rencontre donc la propriétaire des murs de ce restaurant qui me dit « qu'est-ce que vous voulez faire ?» J'ai dit « je veux faire de la mode ». Et à ce moment-là, elle me regarde et elle me dit « oh, ma pauvre enfant, la mode, c'est tellement difficile ». Elle, elle était fabricante d'imperméables au Sentier. Et elle me dit « c'est extrêmement difficile si vous n'êtes pas là-dedans, vous savez, comment ça me faire une aide comme ça ?» Elle dit « je vais vous faire un bail tout commerce, comme ça vous ferez ce que vous voulez ». Bon. Et c'est à la suite de ça qu'on s'est dit finalement, Albert a un peu insisté quand même, on va faire pour ouvrir un restaurant. Et c'est parti de cette manière.
Albert, il cuisinait aussi?
Il cuisinotait.
C'était quoi cuisinotait?
Sa maman lui envoyait il était né à Marrakech, et sa maman lui envoyait des produits, elle fabriquait de la viande séchée, des choses comme ça qui étaient très bonnes. Et on peut pas dire qu'il cuisinait. ses sœurs et sa mère qui cuisinaient.
Donc en ouvrant le restaurant...
Mais il connaissait la cuisine, l'idée, et il aimait beaucoup ça.
En ouvrant le restaurant, l'idée c'était que vous soyez en cuisine.
Alors absolument pas.
Même
l'idée,
pas.
L'idée c'est qu'on ait un chef. Puisqu'on parlait à l'époque, je n'imaginais même pas que des femmes fassent la cuisine. Donc on commence à fabriquer le restaurant. On commence à faire les travaux nous-mêmes, parce qu'on n'avait pas un rond. Et sur ce, on avait un copain qui ouvrait boulevard Edgar Quinet, un café-théâtre. Et on allait sur la Seine acheter du plâtre, acheter des quairons, acheter tout ça pour faire les pièces du restaurant. On n'imaginait pas, c'était complètement fou. Et on n'arrivait jamais on arrivait à faire un mur droit. On le démarrait bien au début, puis partait toujours de travers. Finalement, on a trouvé un maçon et petit à petit, le restaurant s'est fait. Ça a duré en fait une année, la construction de ce restaurant. Et à un moment, il a bien fallu ouvrir. Parce que nous, c'était hypothétique. C'était très bien, ça nous amusait beaucoup, mais fallait travailler, fallait ouvrir. Et on dit, on va essayer de rencontrer des cuisiniers et chercher un cuisinier. Et sur ce, on rencontre un monsieur qui est cuisinier, on l'invite, parce qu'on allait beaucoup à la Coupole à l'époque, on l'invite à dîner à la Coupole pour parler avec lui.
La Coupole, c'est une grande brasserie
voilà, qui est sur le boulevard du Montparnasse, et où j'allais énormément, enfant, etc. Et donc, on parle avec ce monsieur, et moi j'étais là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce type? Ça m'intéresse pas du tout, ce qu'il me raconte en cuisine, etc. Et il me faut tant de casseroles, il me faut... Bon, je dis ça va pas. Donc j'ai dit à Albert, écoute, je vais faire la cuisine pendant 3-4 mois, et quand on aura trouvé un cuisinier, il prendra ma place, voilà, quelqu'un qui fasse la cuisine. Et voilà, et puis j'ai commencé, j'ai jamais arrêté.
Donc le restaurant a ouvert en octobre 73, vous avez 23 ans. Il s'est appelé le restaurant d'Olympe, vous nous
bien
racontiez
sûr.
Dans le premier épisode pourquoi. C'est à ce moment-là d'ailleurs que vous êtes passé de Dominique Versini à Olympe Versini, en prenant le deuxième prénom qui était le vôtre à l'époque et qui est surtout le prénom de votre maman. À quoi ressemblait ce restaurant? Il avait 28 couverts, c'est ça, au départ?
Il avait 28 couverts. Il était l'établi.
Alors la déco, c'était quoi?
La déco, c'était style 1920. Enfin, il n'y avait pas vraiment de style.
En fait, il n'y avait pas vraiment de déco. Vous aviez fait ce que vous vouliez.
Non, le restaurant n'était pas en rouge foncé. Je ne sais pas pourquoi. Tout était rouge. On avait trouvé le mobilier à l'époque chez des revendeurs de mobilier, la cuisinière, le fourneau, etc. Des vieilles chaises tonnées, des tables tonnées, des choses comme ça, puisqu'à l'époque, on arrivait à en trouver d'origine. On a monté le restaurant de cette manière.
Vous vous souvenez du premier jour?
Alors, le premier jour, on a du monde. On trouve qu'on a du monde, mais bien sûr, parce que le premier jour, c'est la famille qui vient. Mon frère est avocat, ma sœur aussi. Donc, il vient avec des gens de son cabinet, ou ma sœur vient avec son mari et des amis. Donc, le premier jour, on a, je sais pas, 15-20 clients. Et le lendemain, on n'a plus personne.
Vous croyez qu'ils n'avaient pas aimé votre cuisine ou tout
on a
la
pas
famille
clients,
ne revient pas
mais ouais. Parce que, en fait, cette rue du Montparnasse, c'est la rue des crêperies. Donc, les gens mangeaient pour 5 francs. Et moi, j'ouvre un restaurant, les gens vont dépenser, je me souviens plus tellement des prix, mais vont dépenser peut-être 8 fois plus.
8 fois plus?
Ils vont dépenser 40 francs, 50 francs. C'est cher parce que les...
Pourquoi c'est si cher?
Ben parce que les produits sont chers. J'achète de la volaille de Brest, je fais venir le pain du sud de la France qui arrive 2 fois par semaine par camion, qui est fait dans un endroit pétri à la main, avec de l'eau de source, avec des vieilles farines. Et donc c'est que les bons produits, et les bons produits coûtent cher.
Ça c'est votre père qui vous avait appris.
Oui,
vous l'avez
ça c'est
expliqué
mon père
dans
qui m'avait appris.
Premier épisode. Mais donc vous n'avez pas perdu la main de ce point de vue-là. C'est-à-dire que les producteurs, vous les connaissiez alors que vous n'aviez pas de pied dans le monde de la gastronomie?
Non, pas du tout. Je connaissais certains producteurs, mais pas tous. Et j'apprends petit à petit à en connaître autour de Paris, etc. Et puis après, des années après, il y a des producteurs de Vendée, des producteurs pour la... Bon, j'avais un boucher, les boucheries Marbeuf à l'époque, qui me font toute la viande, etc. Je découvre peu à peu, grâce aux amis, grâce à la recherche, ce qu'on appelle aujourd'hui le sourcing. Et moi, ce que j'adore, c'est le sourcing. C'est aller dans des villages, c'est rencontrer des gens. Je n'avais pas besoin d'écrire « je prends les meilleurs produits ». Et je choisis maintenant, on le dit. Mais moi, je ne l'écrivais pas parce que pour moi, c'était la logique. Je ne connaissais pas les mauvais produits. Je ne connaissais pas les produits surgelés, congelés, etc. J'en avais jamais acheté. Donc, les prix étaient en conséquence des produits achetés.
Et si on revient à ce premier jour où venait ou était venue votre famille et quelques-uns de leurs amis, Olam Versini, est-ce que vous vous souvenez aussi de ce que vous aviez cuisiné? Dans votre ADN, il y a la Corse, il y a la Provence, il y a l'Italie. Est-ce que c'était ça, la cuisine d'Olympe au départ?
Alors, la cuisine du départ, c'est pas encore l'Italie. L'Italie viendra 6 mois après. Mais tout au début, je fais beaucoup d'écrevisses vivantes que je fais venir du sud de la France ou que j'achète à Paris. Il y avait des viviers à l'époque et le vendeur s'appelait Vanikoff. J'achetais ce qu'on appelle les pâtes rouges et les pâtes blanches et je faisais 3 sortes d'écrevisses. Des écrevisses au curry, des écrevisses à la nage et des écrevisses sautées à l'ail et au persil. Ça, personne ne faisait ça. Des poulets aux écrevisses, du lapin à la tomate, enfin, voilà ça. Et puis, terrine de légumes. Donc, j'ai commencé parce que au début, je savais pas trop quoi faire. Le premier mois, les gens mangeaient des pommes de terre, des choses comme ça. Puis, à un moment, j'ai dit quand même, il faut que je fasse des légumes. Et j'ai commencé à faire des légumes. Et j'ai commencé par une terrine de légumes, qui est d'ailleurs dans le livre. Elle m'a suivi beaucoup, cette terrine de légumes. Et j'ai commencé à découvrir les légumes que je pouvais trouver autour de Paris.
Alors, les légumes, les bons produits, d'accord. Mais comment trouviez-vous l'inspiration? Est-ce que vous vous souveniez des plats de l'auberge de votre enfance? D'où venaient les menus, les recettes, les plats?
Les écrevisses, oui, venaient de l'auberge. Parce que ils en faisaient. Elles étaient gardées dans des viviers d'eau douce, de source, où elles se purgeaient, elles étaient délicieuses. Et donc, les écrevisses, c'est parti de là. Mais moi, je les ai fait de plusieurs manières, ce qui n'était pas le cas à l'auberge. Le poulet aux écrevisses aussi, mon papa en faisait. Après, c'est en cherchant,
Mais vous lisiez des livres, par exemple?
Ah non. Alors là, je vais vous dire une chose. Je ne lisais pas de recettes. Alors, à un moment, j'ai acheté des livres de cuisine, mais je regardais simplement les images. Je ne peux pas dire que j'ai copié des recettes. Ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était de les créer.
Pas de reproduire, d'inventer.
Et d'inventer, c'était la seule chose. Ça m'intéressait. Et petit à petit, vous savez, en voyant les produits, bon, mais c'était pour moi très naturel. Je ne sais pas comment l'expliquer, parce que ça paraît complexe. Mais pour moi, c'était naturel. Et ça venait très facilement. Je voyais des produits sur un marché, par exemple, et tout de suite, j'associais telle chose à telle autre. Et je me disais, je vais essayer ça. Et je faisais quelques essais, mais je dois pas dire que je faisais des essais les uns derrière les autres. Si ça me plaisait, le lendemain, c'était sur la carte.
Et vous gardiez ça toute la semaine à la carte?
Et je gardais. Alors, à l'époque, je changeais 2-3 fois la carte dans l'année et j'avais un plat du jour. Je faisais pas tous les jours du changement. Parce que le restaurant n'était pas ouvert au déjeuner. Alors, ça, il faut que je soulève le lièvre. C'est que pourquoi le restaurant n'était pas ouvert au déjeuner?
Ce qui se faisait quand même très 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 peu à l'époque.
À l'époque, ça se faisait pas. Je n'ouvrais que le soir à partir de 20h, mais en revanche, on restait très tard. Et pourquoi je voulais pas ouvrir au déjeuner? Parce que je voulais aller au cinéma. Je me disais, qu'est-ce que je vais m'embêter à travailler toute la journée? Moi, il faut que je puisse aller au cinéma. Et quand je rentrerai du cinéma, j'irai en cuisine, je commencerai un petit peu à préparer et j'ouvrirai. Moi, c'était comme ça. Parce que je n'avais jamais travaillé dans un restaurant. Je ne savais pas ce que c'est que les préparations.
C'était tout à l'instinct.
À l'instinct et au dernier moment. Tout était cuit au dernier moment. Il y avait, par exemple, une salade d'écrevisses aux artichauts, aux haricots verts et au jambon de Saint-Daniel. Elle est aussi dans le livre. Ça, c'est une des premières recettes. C'était des artichauts frais. C'était des haricots verts frais. C'était des écrevisses qui étaient dans des petites cagettes vivantes. Donc, j'avais la commande, une salade d'écrevisses, par exemple, et là, leur sortaient les écrevisses vivantes. Je commençais à éplucher les artichauts. Je faisais tout au dernier moment. Et je cuisais tout au dernier moment. J'avais pas de mise en place. Les gens attendaient des heures.
La cuisine. Dehors.
Ah oui. Dehors, mais même à l'intérieur.
Non, surtout, oui, c'est ça. Les gens attendaient beaucoup dedans.
Et dehors, après, oui.
Avant que ce soit prêt. Mais vous aviez nécessairement des quantité à prévoir, de savoir si il y avait le plein, le carton plein, ou si il n'y avait que
ça, ça s'apprend très, ça s'apprend très vite. Et Paris, on a la chance, même à l'époque à Paris, je commandais le soir pour le lendemain matin, si vous voulez. Alors, je dois vous dire, je suis jamais allée au cinéma, j'ai pas eu le temps. Hein. Parce que même en travaillant que le soir, on restait ouvert jusqu'à 2-3 heures du matin. Après, il fallait s'occuper d'Abel pour le petit déjeuner, l'emmener à l'école, etc. Et commencer à faire la mise en place. J'étais toute seule en cuisine et Albert était tout seul en salle. Et de temps en temps, quand on a commencé par avoir un seul client qui venait tous les soirs. Alors ce client, il avait une maladie. C'était un ancien notaire qui adorait les restaurants et qui faisait de la grivellerie. C'est-à-dire qu'il allait dans les restaurants et au moment de payer, il disait « je ne paierai pas ». Alors comment j'avais connu ce client ? C'est que ma sœur était avocate et à l'époque, elle l'a eu comme client. Il allait au tribunal, je veux dire, 4 fois par an. Alors monsieur de Saint, il s'appelait Saint-Yves, monsieur Saint-Yves, vous vous avez encore vu, vous avez fait encore de la grivellerie, vous voulez pas payer au restaurant, vous allez avoir une amende, enfin des choses comme ça. Je suppose qu'il allait pas en prison pour ça. Mais il venait chez nous, il faisait pareil. Et ma sœur m'avait dit, quand il vient, tu gardes la note, et c'est moi qui la paierai à la fin du mois, parce qu'elle en était responsable. S'occuper de la gestion de son fric, parce que sinon, il était ruiné. Et toujours est-il que c'était comme ça. Et donc, il venait, il se levait, il disait, je paierai pas. On lui disait, c'est pas grave, monsieur de Saint-Yves, va demain. Et il partait. Il allait chez le Duc aussi, un restaurant très connu de l'époque. Il faisait la même chose. Et après, de temps en temps, il venait vers 10h du soir et il disait à Albert, « Albert, s'il vous plaît, vous pouvez me prêter 20 francs ?» Et il demandait de l'argent, qu'on lui prête de l'argent. Alors une fois, on l'a fait, après on a arrêté de lui prêter de l'argent pour qu'il aille le dépenser 2 secondes après pour offrir des pots dans les cafés à côté. Et ce client a été le seul, je dois vous dire, pendant peut-être un mois. On avait de temps en temps 1 ou 2 clients, mais on n'avait pas de clients. Et puis, par un coup de bol extraordinaire, il y a un journaliste, le premier journaliste qui vient, il s'appelle Larénière.
C'est un pseudonyme, hein, oui. Emprunté à Grimaud de Larénière, qui est considéré comme l'un des, voilà, des pères de la gastronomie. Son vrai nom, c'était Robert Courtine.
C'était Robert Courtine, qui n'avait pas été net pendant la guerre.
C'est le moins qu'on puisse dire, hein, collaborationniste notoire.
Pas net du tout.
Reconverti en critique gastronomie.
Oui, parce que, à l'époque, Il était au Monde, et à l'époque, il ne pouvait pas plus être journaliste à cause de ce qu'il avait fait pendant la guerre. En revanche, critique gastronomique, ça n'était pas bloqué, ça n'existait pas. Il a pris ça et il est devenu critique gastronomique au Monde.
Extrêmement important et important.
Très important, parce que il n'y avait pas de réseaux sociaux, et il y avait très peu de journalistes gastronomiques. Il n'y avait, pour ainsi dire, à part le guide Michelin, pas de guide.
Le Goemio va se créer dans ces années-là.
Un an après. Et donc, c'est le premier article qui est très moyen.
Je l'ai sous les yeux. Février 1974. Je lis. Oui. Il ne suffit pas d'avoir du beurre déchiré, des poulets de Delaunay l'éveillé pour faire un bon restaurant de bonne cuisine. Les jeunes gens qui ont ouvert Olympe, rue du Montparnasse, se rendront vite compte de leur erreur et d'abord de mettre des herbes dans tout, fussent-elles concoctées par un grand maître des aromates.
Voilà, donc un mauvais papier. Mais ça a emmené les curieux. Et ça a fait venir aussi un autre critique gastronomique qui n'était pas clair non plus.
Philippe Coudert.
Philippe Coudert qui lui écrivait dans Minute.
Journal d'extrême droite.
Journal d'extrême droite que les gens achetaient pour les chroniques de Philippe Coudert.
Qui était
excellente, très bien écrite et c'était un vrai professionnel.
Extrêmement influent lui aussi.
Très, 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 très influent. Et à la suite de l'article de Philippe Coudert qui a fait un papier dithyrambique, Henri Gault est venu et là, le restaurant ne s'est plus vidé.
Parce que Henri Gault venait de fonder le magazine Gault et Millot avec son compère Christian Millot. Et ils vous décernent tous les deux d'ailleurs votre première toque, c'est comme ça qu'on dit dans le guide Gault et Millot, en 1974. Alors là, ça va très vite.
Alors là, ça va très vite, ça s'arrête pas. Après la deuxième toque l'année d'après, la troisième, etc. Donc ça va à une vitesse colossale. Et ça fait venir des gens du monde entier.
Des clients du monde du cinéma qui se pressent.
Beaucoup de monde du cinéma.
Comme en plus vous êtes ouvert tard le soir, Olam Versini, et que vous êtes dans un quartier où il y a des théâtres, des cafés-théâtres, des théâtres, c'est pratique aussi pour les gens de théâtre.
Exactement, et nous avons tous les soirs une grande table de Jean Poiret et Michel Serrault, parce qu'à l'époque ils jouent la Cage aux Folles.
Juste à côté.
Théâtre du Palais Royal.
Alors pas juste à côté.
Non, pas un peu plus loin, mais ils viennent.
Mais ils viennent exprès.
Ils viennent exprès. Ils ont une table tous les soirs, et ils viennent tous les soirs, où ils sont 10. Il y a Jacqueline Maillon, il y a tous les gens du spectacle, spectacle de théâtre. Bernard Murat, qui à l'époque joue et commence la mise en scène, etc. Et c'est leur restaurant favori. Et pendant le spectacle, souvent, Jean Poiret m'appelle et me dit « Oh là là, Olympe, qu'est-ce que vous avez ce soir ?» J'ai très très faim, on va faire court. Parce qu'il faut que je vienne très vite, je crève de faim. Donc ils venaient, et puis parfois ils faisaient plus long. Ils restaient plus en scène, ils en rajoutaient, ils venaient plus tard. Et ça a été vraiment des piliers du restaurant dans le théâtre.
Et c'est là que les clients commencent à attendre non seulement dedans, peut-être un peu moins dedans, parce qu'ils
commencent...
Mais à l'extérieur.
Ils attendent parfois une heure et demie à l'extérieur. Avec des gens très connus, par exemple Prince... Maître Reims, il attend dehors. On a eu la Gacan, je crois qu'ils attendent dehors. Ça n'a pas d'importance. Ils attendent, et puis c'est tout, ça peut pas être
comme tout le monde.
Et tout le monde attendait, et Albert avait qu'un mot à la bouche. Il y en a pour 2 minutes. C'était son grand mot. Et il rentrait en courant, il se cachait. Parce que c'était l'enfer. Et moi, je travaillais donc jusqu'à 3h du matin. Et on faisait que le soir 80 couverts, avec 28 places. Et après, j'ai...
Mais là, vous étiez encore toute seule ?
En 73, oui. À la Miss... Jean-Louis Mars. Disons au mois de mars, il y
74.
Avait à côté de mon... Mars-avril, il y a à côté de notre restaurant un yakitori, un restaurant japonais. Et comme j'avais pas le temps de m'occuper d'Abel, tous les midis, je le mets au restaurant japonais. Avant qu'il aille à l'école pour déjeuner. Et là, il y a un cuisinier japonais qui rêve de venir travailler avec moi parce qu'il voit qu'on en parle et tout. Il s'appelait Osamu et c'est mon premier japonais et il vient travailler au restaurant. Et ça, j'ai quelqu'un qui m'aide en cuisine, évidemment. Et on prend un plongeur et tout et on a plus de monde en cuisine.
Bien obligé.
Bien obligé, mais on peut pas très nombreux, la cuisine est minuscule. Donc en fait, je crois que le maximum qu'on ait été dans la cuisine, c'est 3, 3 et demi.
C'est à cette époque, Olympe Versini, que vous faites la triple journée, que vous partez danser chez Castel après le service
ça
du soir.
Ça commence à ce moment-là, oui.
Qu'après vous filez au marché de Rungis à 3h du matin,
oui,
et que vous retournez chez Castel pour finir de danser la nuit.
Oui, voilà, les nuits folles. Donc, en effet, j'ai la première personne qui emmène des gens du cinéma, c'est Paul Rassam.
Producteur. De Coppola. De Miloš Forman.
De Roman Polanski et compagnie. Il vient tout seul à l'époque parce que c'est l'été. On est ouvert au mois d'août. Et puis, à la rentrée, il vient avec son beau-frère qui est Claude Berry, avec sa sœur Anne-Marie, qui est à l'époque mariée avec Claude, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on a énormément de gens de cinéma qui commencent à venir.
Qu'est-ce qu'en pensent les chefs de l'époque? Est-ce qu'ils viennent? Paul Bocuse, Bernard Loiseau?
Alors...
Par exemple, Michel Guérard, bien sûr.
Ils sont curieux. Donc, ils viennent. Alors, Paul, je crois qu'il n'est jamais venu dans le premier restaurant. Il vient après. En revanche, le premier qui vient, c'est Pierre Troisgros et Jean Troisgros, son frère. Et il goûte la terrine de légumes. Ça lui donne une idée. Et il va faire la première terrine de légumes et l'appellation qu'il va garder. Et il va appeler ça terrine de légumes Olympe.
Ah, quand même.
Non, il faut savoir que sa femme s'appelle Olympe. Et lui s'appelle Pierre comme mon père. Ma mère Olympe, mon père Pierre. Et donc il joue sur les mots. Et il a appelé ça la terrine de légumes Olympe. Donc quand même, il me remercie un petit peu.
On va dire ça comme ça.
Mais c'est-à-dire, ils sont très étonnés. J'étais relativement jeune à l'époque, quoique j'ai commencé tard. Il y a beaucoup, les chefs commencent à 14 ans. Moi, je commence à 23 ans, c'est 10 ans plus tard.
Oui, mais vous avez votre propre restaurant à 23 ans.
Mais je suis chez moi. Donc, étant chez moi, personne ne m'ennuie. comme j'ai un caractère de cochon, personne ne m'ennuie et ils sont plutôt très bienveillants envers moi. J'ai beaucoup aussi de chefs parisiens, c'est-à-dire Guy Savoie, Alain Dutournier et compagnie, qui sont fermés le dimanche et qui viennent tous les dimanches dîner au restaurant.
Et qui disent
et qui sont très contents et qui adorent le restaurant.
Qui disent encore aujourd'hui combien ils vous doivent, voilà. Et combien ils se souviennent.
Et c'est vrai que ils me doivent, parce que malgré tout, dans ce restaurant-là, je vais être la première à faire des pâtes d'une autre manière. Je vais faire des pâtes pas comme dans les restaurants italiens. Je vais être la première à faire des pâtes aux langoustines. Je fais mes pâtes moi-même, hein, tous les jours.
Tous les matins.
Tous les matins. Des pâtes au homard, des raviolis de homard. Des pâtes au foie gras et aux truffes, des raviolis de canard avec une sauce brocoli. Et donc, je mets au goût du jour et à la mode les pâtes dans de la cuisine que je pourrais appeler entre guillemets française, mais qui est ma cuisine de toute façon et qui est originale parce que personne ne fait ça.
Mais la cuisine d'Olympe, c'est vraiment la cuisine indépendante avec une règle d'or, c'est la qualité du produit.
Oui.
Vous l'avez dit, avec la simplicité de la préparation, puisque vous disiez que vous n'aviez même pas les mises en place, et avec la cuisson au dernier moment.
Toujours, tout est cuit au dernier
moment. Trois règles d'or, c'est ça.
Trois règles d'or.
C'est quand même aussi, Olympe Versigny, l'époque de l'avènement de la nouvelle cuisine.
Oui.
Dongo Emilio a établi les 10 commandements dans ces années-là. D'ailleurs, les 10 commandements, je les ai sous les yeux. On peut les lire parce que
bien sûr.
C'est des choses qui, je pense, quand même vous parlent. C'est comme si vous aviez participé de cet avènement sans même le savoir. Donc, 1, tu ne cuiras pas trop. 2, tu utiliseras des produits frais et de qualité. 3, tu allègeras ta carte. 4, tu ne seras pas systématiquement moderniste. 5, tu rechercheras cependant ce que t'apportent les nouvelles techniques. 6, tu éviteras marinade, faisandage, fermentation, etc. 7, tu élimineras les sauces riches. 8, tu n'ignoreras pas la diététique. 9, tu ne truqueras pas tes présentations. Et 10, tu seras inventif. Ça vous parle, ça ?
Oui, la plupart me parlent, mais moi je le fais d'une manière automatique. Et de toute façon, je ne sais pas cuisiner autrement. Je ne sais pas. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire des daubes, des ragoûts, des pot-au-feu, tout ça. Je peux le faire, mais c'est pas une cuisine qui m'intéresse. La cuisine familiale, elle m'intéresse pas. Alors, on a toujours tendance à dire, mais les femmes font des cuisines de femmes. Alors, moi, je disais à l'époque, et je dis toujours, personne n'est capable, en goûtant un de mes plats, sans le savoir, que c'est un plat fait par une femme. Et je pense que toutes les cuisinières d'aujourd'hui peuvent dire la même chose. Simplement, on mélange toujours la cuisine de femme et la cuisine familiale, encore aujourd'hui. C'est-à-dire la cuisine que l'on fait à la maison, que les femmes font à la maison. Toujours la tarte de la grand-mère, le pot-au-feu de l'arrière-grand-mère et compagnie.
Forte de ce succès, Olympe Versigny, vous déménagez rue Nicolas Charlet dans le 15e arrondissement en 1979, année de la consécration, puisque vous avez 3 toques et 18 sur 20 au Go Emilio, suivi de près par une première étoile au Guide Michelin en 1981. Nous verrons ce succès confirmé dans l'épisode suivant. À suivre l'épisode 3, La Reine de Paris. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Olympe Versigny. Réalisation Manouchak Fachaï, prise de son Benjamin Perru, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.